Vous êtes sur RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, immense plaisir de vous retrouver ce vendredi après-midi pour le meilleur de Confidentiel spécial été sur RTL. Une heure où l'on va marcher ensemble dans les pas d'une célébrité. Une histoire non pas secrète, mais souvent méconnue. Ou oublier ce qu'il y a derrière le rideau du succès, les honneurs, l'argent, mais aussi parfois les doutes, les trahisons et la solitude. Aujourd'hui, ce sont les pas d'un roi que nous allons suivre, celui du rock'n'roll, un demi-dieu qui, 43 ans après sa mort, est toujours aussi vénéré, admiré et écouté, une gloire absolue, mais aussi une part d'ombre. Au pays du rock, il n'y a qu'un seul king, Elvis, bien sûr. Elvis Presley, dans le meilleur de Confidentiel spécial été, c'est tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard, Confidentiel Elvis Presley sur RTL.
Elvis Presley n'est pas mort, dit la légende. Pas tout à fait faux, puisque dès sa naissance, Elvis fut un survivant. Son frère jumeau, Jesse Garon Presley, cessant de respirer 35 minutes avant que lui-même ne vienne au monde. Seul le cœur d'Elvis continua miraculeusement à battre, des pulsations qui allaient bientôt écrire la grande histoire du rock'n'roll. Elvis Aaron Presley a donc grandi comme un fils unique sur les rives du Mississippi, dans une minuscule maison à Tupelo. Les Presley ne roulent pas sur l'or. Un père, Vernon, peu bavard, abonné au petit boulot, il falsifiera un chèque de 4 dollars pour que sa famille puisse manger et passera 8 mois en prison. Une mère, Gladys, plutôt gaie et pétillante. La famille n'a rien, mais Elvis n'en est pas moins un enfant gâté, choyé, aimé. À sa mère, un jour, il fait le serment. « T'inquiète surtout pas. Quand je serai grand, je vais t'acheter une belle maison, je paierai tout ce que tu dois à l'épicerie et je prendrai 2 Cadillacs. Une pour toi et papa, une pour moi. » Les Cadillacs seront un jour l'un des emblèmes de la maison Presley. En attendant, la famille prie à un avenir meilleur à la First Assembly Church, l'église pentecôtiste. La voix du jeune Elvis y résonne, tout comme à l'école où l'institutrice est subjuguée. Premier concours de chant, Elvis a 10 ans, porte des lunettes et a dû grimper sur une chaise pour fredonner Old Chip, une ballade larmoyante. When I was a lad, Old Chip was a pub. Première guitare, la musique va s'emparer du petit garçon et ne va plus jamais le quitter. « J'ai appris à jouer en regardant les autres », dit Elvis. « Je ne chantais jamais en public. J'avais un trac énorme. » C'est à Memphis, Tennessee, que Elvis Presley va devenir chanteur. C'est un adolescent aux cheveux noirs, pas très grand, poli, un élève assidu. Les nuits, il les passe à écouter les standards du moment sur la radio locale ou dans un théâtre de la ville où se produisent des groupes de gospel. Elvis apprend vite le pouvoir envoûtant de la musique qui agit comme un filtre de séduction. Lui, l'élève anonyme qui n'est jamais sorti avec une fille, devient la coqueluche du lycée en chantant dans un spectacle amateur. C'était incroyable comme je suis devenu populaire à partir de ce moment-là, dit-il. Fini, Elvis reste le bon petit gars qui aide ses parents. Il gagne 36 dollars par semaine comme mécanicien dans une entreprise de transport, mais ne quitte jamais sa guitare. Elvis a beau être réservé, il a aussi tous les culots. Après avoir lu un article sur une maison de disques, Sun Records, il déboule à l'improviste pour rencontrer le patron, Sam Phillips. Personne ne sait qui est ce Elvis, mais son allure est magnétique. Une beauté inimaginable, mince, des yeux incroyables, se souvient l'assistante de Phillips. Lui ne se démonte pas. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un chanteur, je chante tous les styles, je ne ressemble à personne.
You saw me standing alone without a dream in my heart.
RTL. Jean-Alphonse Richard. Confidentiel Elvis Presley sur RTL.
Elvis Presley est peut-être unique, mais cela ne suffit pas à le changer instantanément en une étoile de la chanson. Les premiers enregistrements sont en naufrage. Il faudra du temps pour que Elvis attrape le timbre langoureux de Without You. Le patron de Sun Records sent pourtant qu'il y a un truc, un souffle indéfinissable et prometteur. Il faudra attendre le début de l'été 1954 pour qu'un soir, l'étincelle Elvis embrase le studio. Sans prévenir, le chanteur s'empare d'un vieux blues. That's alright, mama est la première pierre qui va construire la légende. Elvis Presley est né. Elvis a 19 ans, sur scène, impossible de rater cet énergumène qui porte un nœud papillon et une coiffure en queue de canard. Miroir d'une Amérique décomplexée et en pleine croissance. Il plaît à tout le monde, déchaîne les cris des adolescentes et bouge de façon inédite. Ce déhanchement torride et sexuel lui vaudra bientôt les attaques des ligues de vertu et un surnom, Elvis the Pelvis, Elvis le Pelvis, le nom de la partie la plus basse du bassin. You ain't nothing but a hound dog. Même le FBI constituera un dossier sur la nouvelle idole, l'assimilant à un exhibitionniste sexuel. La célébrité est vite au rendez-vous. Même le grand Ernest Hemingway déclare que Elvis est son chanteur préféré. La première personne à qui le chanteur fait partager son premier contrat est aussi sa première fiancée. You know I can be fine, sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Elle a 16 ans et s'appelle Dixie Locke. Une jolie brune, attentionnée, amoureuse. Elle suivra à distance les premières années de l'ascension du chanteur, toujours sur la route pour de lointains concerts. Elle l'attendra à Memphis en espérant le mariage et la promesse d'élever 3 enfants. Mais le mariage ne viendra pas, comme il ne viendra pas non plus avec les suivantes, Anita Wood ou June Joannico, dont pourtant il sera éperdument amoureux. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Confidentiel, Elvis Presley, sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
Elvis Presley, un petit Américain presque comme les autres. Je dis presque parce que on vient de le raconter dans ce confidentiel. Elvis Presley est très vite sacrément doué pour la musique. Avec nous dans ce studio pour en parler, un vrai enfant du rock. Patrick Mahé, bonjour et bienvenue sur RTL.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Patrick Mahé, longtemps l'un des piliers de Paris Match, auteur de 100 jours avec Elvis aux éditions du Cherche Midi, amoureux des 50s et des 60s. Justement, Patrick Mahé, à quoi ressemble donc cette Amérique dans laquelle grandit le petit Elvis ?
C'est une Amérique assez pauvre dans laquelle il grandit, puisqu'il grandit à Tupelo, qui est un petit village du Mississippi. Et vraiment, c'est la misère. Sa mère est une journalière dans des hôpitaux, elle fait des remplacements, des vacations. Son père est un journalier dans les terrains de culture. Le gamin naît dans ce qu'on a appelé un shotgun shack, c'est-à-dire pratiquement un baraquement de fête foraine. Son frère jumeau à la naissance, d'ailleurs, périra au moment de la naissance. Et Elvis sera hanté toute sa vie par le souvenir de son frère jumeau, qu'il n'a bien sûr pas connu, mais dont le fantôme le hantera. Et puis après, il y aura pas mal de petites histoires dans le Mississippi qui entraînera la famille vers Memphis, parce qu'on accusera son père d'avoir été un bootlegger. Un bootlegger, c'est un trafiquant de whisky, de mauvais whisky. Et là, il découvrira, à l'âge de 11 ans, les lumières de la ville.
Alors, très vite, tout le monde détecte chez Elvis Presley un incroyable potentiel musical. Qu'est-ce qu'il a donc de plus que les autres petits chanteurs, cet Elvis Presley ?
D'abord, il a une voix assez particulière. Il a des tonalités qui ne sont pas celles des copains d'école. Et quand, pour l'anniversaire de sa mère, en dépensant son argent de poche, il va enregistrer au futur studio Sun, qui s'appelle le Memphis Recording Service à l'époque, un petit acetate pour sa mère qui s'appelle My Happiness, la secrétaire va repérer en lui quelqu'un de différent. D'abord, il a ses finalités de phrase avec des ma'am comme ça, que les autres n'ont pas. Il a ce qu'on va dire plus tard, c'est un peu de la légende, cette voix de blanc qui chante comme un noir. Enfin, en tout cas, il a quelque chose de différent. Et puis en plus, il bouge très très bien. Et c'est ainsi que débutera l'histoire et l'aventure.
L'histoire et l'aventure est juste un point, il est extrêmement moderne, cet Elvis Presley.
Il est moderne parce que d'abord, il est pétri de pas mal d'influences musicales. Le gospel, d'abord, de sa toute petite enfance. Le blues, puisque en arrivant à Memphis à l'âge de 11 ans, il va fréquenter tout de suite Beale Street, la rue qui bouge, et puis il va s'habiller en achetant des habits beaucoup plus amples que les autres, et donc il se dandinera différemment. Il bouge, il chante bien, il joue de la guitare. Il a une guitare depuis l'âge de 11 ans. Il se l'est fait offerte par sa mère pour son anniversaire, alors qu'il rêvait d'avoir un vélo. On aurait pu avoir un champion cycliste, non, on a eu un guitar hero.
Confidentiel, Elvis Presley, sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe.
Seule la musique compte pour Elvis Presley. Sa voix commence à envahir les ondes et son visage va être bientôt connu de toute l'Amérique. Un producteur sans scrupules, Tom Parker, surnommé le colonel, a vu tout de suite en ce jeune homme encore mal dégrossi qu'il ne sait pas se servir convenablement de ses couverts à table, une juteuse mine d'or. Contrat d'exclusivité signé avec la nouvelle idole qui se croit dans un rêve et a peur de se réveiller. Le colonel se charge du destin d'Elvis, le place dans une bulle qui le protégera des tentations, des addictions et des attaques. Avec Parker, le futur King prend pour la première fois l'avion, fait sa première télé, ses premiers pas dans le cinéma et connaît son premier triomphe avec Mystery Train. L'année suivante, à 21 ans, il entre dans la légende avec un tube et réalise son rêve d'enfant, 4 Cadillacs et surtout une vaste maison à Memphis où il vivra, lui et ses parents. Graceland sera le refuge le plus sûr pour Presley, un parfait jardin d'Éden. Dans sa Cadillac, il transporte des oies, 16 au total, qui entretiendront le gazon. Pour sa mère, il fait planter des banquets de tulipes. Son père s'occupera du potager. À Noël, un grand sapin trônera dans le salon. Graceland sera le havre de paix d'Elvis au retour de ses concerts hystériques. Quand je chante du rock, mes yeux n'arrivent pas à rester ouverts et mes jambes ne tiennent plus en place, dit-il. Comme ce soir d'été à Memphis, où les 4 hôpitaux voisins du stade où se produit Elvis ont augmenté la dose des somnifères pour les patients. Graceland sera aussi le lieu où mourra bientôt sa mère chérie, fauchée par la maladie, et où il rendra une nuit de 1977 son dernier souffle. Cette fin des années 50 est l'époque où, pour se rassurer, Elvis répète qu'il ne fera pas du rock'n'roll toute sa vie. « Quand ça sera fini, je passerai à autre chose », affirme-t-il. « Et pourquoi pas le cinéma ?» Le chanteur admire Marlon Brando, dont il copie la démarche. James Dean, en qui il voit un oiseau de nuit. Je ne sais rien de Hollywood, dit Presley. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas être sexy et sourire en même temps. On ne peut pas être rebelle et rigoler. Il tourne Le Cavalier du Crépuscule, que la production a enrichi avec quelques chansons. Il y aura bien une poignée de films, mais même à l'affiche avec Ursula Andress dans L'Idole d'Acapulco, ou embarqué dans une courte love story avec Natalie Wood, Presley ne sera jamais le nouveau Brando. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah. C'est le rock, rien que le rock. Cette musique bidon chantée, jouée et écrite par des crétins pour des délinquants à rouflaquettes, comme le déclare alors Frank Sinatra. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Hillary. Well, I'm evil. So don't you mess around. Le 1er octobre 1958, à 23 ans, Elvis Presley devient le plus célèbre des bidasses américains. Envoyé en Allemagne, à la Reichskaserne de Friedberg, pour y faire son service militaire. Il sert de chauffeur au colonel et à la nostalgie de Memphis. Ici, même lors des sorties dans les nightclubs, il ne peut pas chanter. Son contrat le lui interdit. Une seule fois, on l'entendra entonner « Douce nuit » la veille de Noël dans un orphelinat où le temps restera longtemps suspendu à sa voix.
Confidentiel, Elvis Presley sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
En Allemagne, le soldat Presley, qui a son propre coiffeur et une maison particulière, trompe l'ennui en jouant au football américain. Il a tenté de faire soigner ses cicatrices d'acné grâce à un traitement miracle qui a failli le défigurer. Le médecin, un charlatan, réussira à lui extorquer un bon paquet de dollars. Elvis se bourre aussi de petites pilules, des amphétamines, qui ont toutes les vertus, le tenir en forme et l'empêcher de prendre du poids. Ces pilules magiques ne vont plus jamais sortir de l'existence du King, habitué à des prescriptions de plus en plus longues, cocktails de psychotropes, excitants et somnifères. À la caserne, Elvis a croisé le regard d'une gamine de 14 ans. Priscilla Beaulieu est la fille d'un capitaine américain fraîchement débarqué. N'adieu que pour cette fille qui ressemble si étrangement à sa mère Gladys. Priscilla, elle, tombe immédiatement sous le charme de cet appelé dont elle ignore tout. Elle est trop jeune et le flirt s'arrêtera là. Elvis rentre à Memphis. Les adieux sont déchirants. Elle lui écrit, il se téléphone. 2 ans plus tard, Priscilla franchira la porte de Graceland où Elvis l'embrassera devant tout le monde. Wise men say. Ils attendront encore 5 ans avant de se marier à Las Vegas, puis auront une petite fille, Lisa Maria. Toutes ces années, jusqu'au divorce en 1973, Priscilla va être la gardienne rassurante de la vie d'Elvis, témoin parfois impuissante d'une lente glissade. Malgré les succès, l'argent qui coule à flot et avec lequel il achète même un porte-avions réformé de la marine américaine, le USS Potomac, Elvis traîne un profond mal-être.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy.
Un jour, il se confie au révérend de son église. « Je suis le jeune homme le plus malheureux que vous n'ayez jamais vu. Je suis entouré d'un tas de gens qui se prétendent mes amis, mais je suis malheureux. »
Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it.
Comment Elvis est devenu le King? La saga continue dans le meilleur de Confidentiel spécial été après les infos. RTL, il est 15h. Les informations, Yann Bouchery.
Bonjour à tous. À la une, le retour du Covid en Bretagne. Le R0 est monté à 2,62 et devenu le plus élevé de France. Il s'agit du taux de reproduction du virus. En clair, 10 personnes positives en contaminent 26. Parmi les régions en vigilance forte, la Réunion est à 2,25. Provence-Alpes-Côte d'Azur à 1,55 et les Pays de la Loire à 1,50, selon les chiffres fournis ce matin par Santé publique France. Situation préoccupante aussi à Barcelone. Les habitants de l'agglomération ont été appelés à rester chez eux, sauf pour des raisons de première nécessité. Le gouvernement catalan a aussi annoncé la fermeture des cinémas, des théâtres et des discothèques. Jean Castex révise son agenda social. Le Premier ministre recevait ce matin les partenaires sociaux afin de définir une méthode et un calendrier pour les semaines à venir. Il a donné des gages à ses interlocuteurs en décalant les réformes des retraites et de l'assurance chômage au début 2021. La priorité reste la lutte contre la crise et le chômage, a ajouté Jean Castex. Une réunion sur l'emploi des jeunes aura lieu la semaine prochaine au ministère du Travail. Les participants se sont accordés aussi sur une prochaine conférence prévue au mois d'octobre. Deux personnes grièvement blessées et cinq plus légèrement ce matin dans l'incendie d'un immeuble du quartier de Belleville à Paris. Le feu a pris au premier et troisième étage de cet immeuble haussmannien qui en compte six, détruisant deux appartements. 70 pompiers ont été dépêchés sur place. Ils ont maîtrisé le sinistre vers 12h30. On fait un point à présent sur vos conditions de circulation. Et aujourd'hui, Bison Futé a classé la journée orange dans le sens des départs. Hortense Crépin, où sont les ralentissements?
Eh bien, le trafic est chargé, mais globalement, ça reste correct. Le plus gros des difficultés, ce sera en fin d'après-midi, avant la journée rouge de demain. Direction la Méditerranée, des premiers ralentissements au début de la 6, puis au secteur de Beaune, vous freinez un peu pour vous rendre vers Lyon. Dans la vallée du Rhône, sur la 7, les deux sens de circulation sont touchés. Comptez au moins une demi-heure de plus pour aller du sud de Lyon à Orange. Sur le reste du pourtour méditerranéen, ça roule correctement sur la 9 et la 61. Dans l'ouest, enfin, quelques zones de ralentissement au niveau d'Orléans sur la 10 ou sur la 11 vers Chartres. Mais là aussi, ça va s'intensifier dans les prochaines heures.
Merci Hortense. Dans le reste de l'actualité, les obsèques de Philippe Monguillot auront lieu lundi à Bayonne. Ce chauffeur de bus est décédé vendredi dernier à l'hôpital de la ville. Cinq jours plus tôt, il avait été sauvagement agressé par des voyageurs après avoir réclamé le port du masque dans son véhicule. La cérémonie religieuse sera célébrée à 14h30 à l'église Sainte-Croix, ont indiqué sa veuve et ses trois filles sur les réseaux sociaux. Le décès de Zizi Jeanmaire, la chanteuse, danseuse et meneuse de revue, est morte à l'âge de 96 ans. C'est en 1961 qu'elle est devenue une figure emblématique du musical à Paris avec la revue de l'Alhambra et son célèbre numéro Mon truc en plume dans des costumes d'Yves Saint-Laurent. Zizi Jeanmaire est décédée la nuit dernière chez elle en Suisse, a fait savoir sa famille. La météo de votre samedi. Demain, enfin une journée estivale pour tout le monde. Le soleil va s'imposer sur l'ensemble du pays après dissipation des grisailles matinales sur le nord-ouest et le Pays basque. Attention aux averses orageuses en montagne l'après-midi, en Corse, sur les Alpes du Sud et le Var. Les températures seront en hausse de 21 à Brest à 33 à Nîmes et Montpellier. On termine avec les courses. Elles ont lieu en nocturne aujourd'hui à Cabourg. Les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 8, l'As, le 7, le 4, le 3, le 6. Et la dernière minute, c'est l'As Loverboy. RTL, 15h04, confidentiel avec Jean-Alphonse Richard. Le retour, il est consacré à Elvis Presley.
Confidentiel, Elvis Presley. sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Elvis, au sommet, donc, en ces années 50-60, on revient sur cette période dorée avec notre invité Patrick Mahé, auteur de 100 jours avec Elvis. Elvis chante divinement bien, Patrick Mahé, mais c'est aussi l'une des premières machines à cash du rock'n'roll.
D'abord, il le doit à son manager, qui s'appelle Parker. C'est un faux colonel. Il se fait appeler colonel. En fait, il a le titre de colonel parce que un gouverneur d'un état du Sud, en Louisiane, lui a décerné ce titre pour une accumulation de succès dans des fêtes foraines. Donc on l'appelle colonel, c'est pas tout à fait un grade militaire. Et il va être très malin. Il s'occupe, lui, d'un chanteur de country music, Parker, qui s'appelle Hank Snow, propre sur lui et vraiment très bon musicien, mais qui rapporte rien. Or, il a décelé en Elvis Presley quelqu'un qui fait bouger les foules, qui attire les filles également. C'est très important. Mmh. Il aimante les filles. Il faut voir sur scène quand il interprète des chansons et qu'à la fin, il dit « Eh les filles, venez me retrouver en coulisses, par exemple. » Alors là, c'est l'émeute. Et Parker se dit « Oh là là, mais là, il se dit, c'est le pays de cocagne. » Et il va larguer Hank Snow pour s'approprier littéralement Elvis.
Alors, le colonel Parker, évidemment, c'est l'âme damnée d'Elvis et c'est l'homme qui va le construire. Et puis, il y a cette histoire extraordinaire, le service militaire en Allemagne.
Parker a très peur quand Elvis est appelé sous les drapeaux. Pourquoi ? Parce que le rock'n'roll se déploie, a de plus en plus de têtes d'affiche, que ce soit Gene Vincent à Norfolk, que ce soit Eddie Cochran. Il y a une concurrence. Elvis n'est pas seul. Or, Elvis va disparaître de l'affiche puisqu'il doit partir faire son service militaire. Donc Parker va faire deux choses. Un, il va lui faire rompre ses fiançailles avec une très jolie fille du Sud, de Memphis, qui s'appelle Anita Hood, parce qu'il dit si Elvis part avec une fille officielle, les autres filles vont se désintéresser de lui.
C'est ça.
Ensuite, il va lui faire signer un certain nombre de films, 4 avant son service militaire. Et du coup, ça va lui permettre de maintenir une présence d'Elvis Presley, et puis il va mener plein d'opérations commerciales autour de lui.
L'Allemagne, le service militaire, c'est aussi la découverte des amphétamines.
Les énergisants. Mais moi, je pense que pendant le service militaire, il y aura un autre aspect avec Elvis qui est intéressant, c'est les médicaments. Enfin, les médicaments et non pas la drogue, parce qu'on interprète souvent le mot drugs, qui veut dire médicaments et pharmacie, comme drogue.
C'est vrai, il y a juste une incursion avec le LSD très courte, d'ailleurs.
Oui, et ça ne lui plaît pas du tout, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. C'est pas son truc.
Bon, le service militaire aura pour lui une révélation, c'est la rencontre avec Priscilla, à laquelle il va rester extrêmement fidèle, d'ailleurs. Ce ne sera pas juste une amourette de saison ou de passage ou de service militaire. Et elle n'est pas une fille à soldat, entre guillemets, non plus. La première fois qu'il la connaît, elle va monter dans sa chambre. Ils vont avoir une discussion très longue, intime sur eux-mêmes. Tout ceci sous le portrait de Brigitte Bardot, qu'Elvis avait fantasmé de rencontrer pendant son séjour en Europe. Ils vont se rapprocher à travers leurs histoires. C'est une rencontre de cœur brisé.
Confidentiel, Elvis Presley, sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
En cette année 1964, Elvis Presley a 29 ans. Il est connu de la terre entière, mais n'a jamais été aussi seul. Prisonnier de ses fans, de son producteur, le colonel Parker, poule aux œufs d'or pour une flopée de proches qui, installés à Graceland, vivent à ses dépens. As the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Elvis fait alors la connaissance de Larry Geller, son nouveau coiffeur qui va aussitôt se transformer en gourou et le restera jusqu'à la mort de l'idole. Larry Geller a-t-il détecté les doutes, les interrogations, la lassitude qui emplit Elvis ? Il devient son conseiller spirituel. Le King boit ses paroles sur le sens de la vie, sur le mirage du succès et de l'argent, sur les valeurs essentielles de l'existence. Geller est plus qu'un confident ou un confesseur. C'est un guide de l'ombre. Elvis l'emmène partout, installe même sa famille, femme et enfants, dans une maison proche de la sienne. Geller, qui suscite jalousie et méfiance, détesté par Priscilla, aurait-il mis le King sous influence ? Une fois en route à travers le Nouveau-Mexique avec ce gourou, Elvis Presley a soudain des hallucinations. Dans un nuage, il croit deviner le visage de Joseph Staline. Puis le chanteur rayonne soudain de joie. « C'est Dieu !» s'exclame-t-il, « c'est Dieu !» Il prend Geller dans ses bras et lui dit «
Je te remercie du fond du cœur. C'est toi qui m'as amené ici. Je n'oublierai jamais. Jamais. Elvis trouve son existence vide et vaine. Il traverse des crises de mysticisme.
There must be lights burning brighter somewhere.
Les amphétamines et les drogues énergisantes qu'il ingurgite pour tenir le choc, il prendra une seule fois du LSD, le délabre un peu plus. Presley ne semble pas très heureux.
Of a better land where all my brothers walk hand in hand. Tell me why, oh why can't my dream come true.
Quand son producteur, le colonel Parker, organise une rencontre dans la villa d'Hollywood avec les autres monstres sacrés du moment, les Beatles, Elvis les ignore comme un enfant boudeur. Ringo Starr jouera au billard. Seuls Lennon et McCartney tireront quelques accords de guitare avec le roi du rock'n'roll, ailleurs, absent. En cette année 1968, Elvis a 33 ans et le monde se dérobe sous ses pieds. Hollywood ne lui fait plus les yeux doux et la musique a changé. Ses disques se vendent moins bien. Le King est en pleine expectative. Il ressurgit pourtant lors d'un show télé taillé sur mesure, enregistré sur NBC. Ce comeback spécial est une révélation. Studio, 200 personnes semblent subjuguées par la star. Elvis est sur un nuage et fait chavirer les téléspectateurs. Le chanteur sort épuisé de l'enregistrement. Il dit que son cœur a failli exploser, mais il est heureux. Au colonel Parker, il confie « Je veux recommencer à tourner, je veux me produire sur scène, retrouver le public. » Elvis enregistre donc de nouvelles chansons, plus fraîches, davantage dans l'air du temps. Mais le géant est devenu fragile, se sent parfois investi d'une mission. « Je veux sentir l'amour de Dieu, je veux donner cet amour en retour », confesse-t-il. Ses traits ont changé. Dans ses capes sombres et ses justes au corps à paillettes, le corps s'est empâté. Elvis grossit et maigrit au gré des humeurs et des cocktails de médicaments. Elvis ne sait plus très bien ce qu'il cherche. Le 21 décembre 1970, il rend visite au président Richard Nixon à la Maison Blanche. Il porte un costume de velours grenat, une ceinture dorée et un Colt 45 comme cadeau destiné au service secret. Visite surréaliste. Il est venu dénoncer dans une lettre, pêle-mêle, la culture de la drogue, les hippies et les Black Panthers. Il offre ses services au pays. Je pourrais faire davantage et bien encore si j'étais nommé agent fédéral extraordinaire, dit-il au président. Nixon hésite, puis offre à Elvis un badge du bureau des narcotiques, ses âmes le transformant en super-héros de l'Amérique.
Elvis Presley sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Elvis Presley s'enfonce dans l'ombre, celle de la dépression, des barbituriques et de la boulimie. Même si en public, il ne montre rien. Comme à ce concert d'Hawaï au mois de janvier 1973. Le premier du genre à être retransmis par satellite sur tous les continents. Seul le voyage historique de Nixon en Chine avait eu de tels honneurs.
Welcome to my world. Won't you come on in?
Le concert est baptisé Aloha Elvis, bonjour Elvis. La star porte une tenue blanche immaculée avec un aigle doré. Une heure de frisson, même si Presley est apparu bouffi, les gestes plus lents. Qu'importe, de l'Amérique jusqu'au Japon, le monde n'a pas quitté des yeux le King.
Oh, I wish I was in a land of cotton. Old times are not forgotten. Look away, look away.
Look away, Dixieland.
Elvis Presley est bien trop clairvoyant pour ignorer que dès lors, c'est après sa légende qu'il court. Son corps le trahit. Il arrive que sa voix flanche. Il court les pharmacies pour reprendre des forces, combat les douleurs à coups de sédatifs, consulte une armée de médecins. Il a de l'hypertension. Un docteur va bientôt déceler une déformation de l'intestin. Le boxeur Mohamed Ali, qui le connaît bien, décrit un homme qui ne profite pas de la vie, reste cloîtré en permanence et a peur de la foule. Lors d'une conférence de presse, Elvis dit lui-même « Être à la hauteur d'une image, c'est très difficile. » Les séances en studio d'enregistrement deviennent pesantes. Les concerts sont des chemins de croix. Elvis s'inquiète de tout, du matériel, des voyages, de l'hôtel, de l'avenir qu'il aura ou non avec Linda Thompson, sa nouvelle conquête, une ex-Miss Tennessee. Il a le souffle court. Une fois, sa mâchoire s'est décrochée et son bridge est tombé. Une autre fois, durant un vol pour Las Vegas, son avion doit atterrir en urgence à Dallas. Elvis est au bord de l'asphyxie. Il lui faudra des heures pour récupérer dans une chambre d'hôtel. C'est un chanteur trop gros, perclus de crampes, qui a peur de dormir et fait toujours le même cauchemar. Tout le monde, ses fans, le colonel, l'ont abandonné. Il est seul, sans argent, et se réveille en sueur.
Never know how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me,
En ce mois d'août 1977, un livre sort en librairie. Il raconte la face cachée de l'idole, son addiction aux médicaments, sa mauvaise santé. Elvis est furieux, honteux et contrarié. La prochaine tournée doit l'emmener à Portland et se terminer chez lui à Memphis. Dans la nuit du 16 août, à 2h15, il appelle son médecin George Nikopoulos. Ses dents le font souffrir. Il veut un sédatif. Le docteur est un habitué des ordonnances. Depuis le début de l'année, il a prescrit au King 8805 comprimés. Elvis ne dort pas. Il fait venir à Graceland deux cousins pour une partie de ballon improvisé, puis reste seul au piano où il joue une ballade de Willie Nelson. Le King mourra à l'abri des regards, en pyjama doré, dans la salle de bain de Graceland. Ginger Alden, sa dernière compagne, elle aussi ex-miss de beauté, le découvre sans vie à 13h30. Le lieu sera immédiatement nettoyé, les placards à pharmacie vidés, la police ne trouvera que deux seringues abandonnées, l'autopsie restera évasive. Artériosclérose, occlusion intestinale, surdose de codéine, cette fin restera à jamais entourée d'un voile de mystère. Le jour des funérailles, des milliers de personnes défilèrent devant sa dépouille. À part James Brown, aucune célébrité ne vint à Graceland. À la sortie du cercueil en cuivre, attendu par une Cadillac couleur argent, l'une des branches d'un grand chêne craqua et tomba près du cortège, comme si Elvis avait voulu dire qu'il n'était plus là, mais que son cœur continuait à battre.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time.
C'est l'été sur RTL. Confidentiel, Elvis Presley sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Voilà pour la lumière et puis le crépuscule du King. Patrick Mahé, grand connaisseur d'Elvis Presley, depuis une heure avec nous dans ce studio RTL, dans Confidentiel. Presley mort, sa légende évidemment demeure, et notamment à travers cette incroyable adresse, Graceland.
Graceland, c'est la maison d'autant on emporte le vent. En fait, on a l'impression d'entrer dans le roman de Margaret Mitchell, c'est-à-dire cette grande maison à colonnade qui est sise sur, à l'origine, 300 hectares de terre. il y en a beaucoup moins quand il l'achète, et qui a vu passer dans cette propriété à la fois les soldats yankees pendant la guerre de sécession, mais aussi les campements des confédérés. C'est une maison très grande, avec beaucoup de pièces, que lui va aménager à son goût. Bien sûr, la Jungle Room, par exemple, qui est une chambre, une pièce qu'il a aménagée avec des tas de fétiches exotiques, peut être déroutante pour beaucoup. La pièce de billard aussi, la pièce de télévision, c'était différent parce qu'il était à l'époque, il faut le savoir, le seul et unique possesseur de 3 télévisions, comme le président des États-Unis.
C'est la maison du malheur aussi pour Elvis Presley, hein. Une fin pleine de souffrance pour Elvis Presley.
À la fin, mais vraiment à la toute fin, c'est un garçon qui est totalement épuisé. Il est épuisé par les tournées marathon que son manager a signées. Les tournées s'accumulent. Et en 76, par exemple, alors qu'en fin 75, il a dû annuler 22 de ses 27 concerts, il perd un peu la mémoire sur 2 ou 3 chansons, sur Are You Lonesome Tonight, par exemple, et c'est Cissy Houston qui lui rend un deuxième souffle sur scène. Il est fatigué, il a envie d'un break. Ce break n'arrive pas. Et à la veille de sa dernière tournée, quand il va se coucher, il est quand même très fatigué. Lui va s'isoler dans la salle de bain avec un livre à la main qui est un livre sur le mystère du Saint-Suaire de Turin, c'est quand même intéressant à souligner. Et quand sa compagne se réveillera le lendemain matin, elle le trouvera inanimé.
Il a inspiré tellement de monde, Elvis, il continue à le faire. Et il y avait quelqu'un qui l'admirait et qui a été un modèle pour lui, c'est Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il disait, Johnny, sur Elvis ?
Johnny a découvert Elvis Presley très jeune, dans un cinéma de Pigalle, quand il a été voir le film Loving You. Lui qui rêvait d'être James Dean, il a dit « mais je veux être Elvis Presley, je veux chanter comme lui ». Et ça l'a beaucoup inspiré, jusqu'à la fin de sa carrière à Johnny Hallyday. Partout, dans les grands stades, il y avait un petit carré, une scène, comme une scène, qui était la reproduction d'un gala que Elvis avait donné en 68 pour la télévision. Et il interprétait That Alright Mama, Mystery Train, des chansons simples comme ça pour le public, en hommage à Elvis Presley. Toute sa vie, Johnny a rendu hommage à Elvis Presley.
Elvis, toujours vivant, et puis recordman aussi des ventes de disques.
Absolument, puisqu'il atteint pratiquement 200 disques d'or et de platine, exactement 197. C'est un record qui n'a jamais été battu. Ni par Michael Jackson, ni par les Beatles, ni par les Rolling Stones.
Merci Patrick Mahé pour ce voyage autour du King. Merci à Justine Vigneault pour sa patience dans la préparation de l'émission et à Philippe Duval pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau destin, celui sombre et glorieux de Jim Morrison, les Doors.